pas faux ce que je vais vous proposer, sont extrêmement intéressants et montrent vraiment la place éminente que ces huit points acquis dans la société alsacienne, mais en particulier dans la société de Strasbourg. Alors, en premier lieu, je vous l'avais dit tout à l'heure, ils sont très bien implantés dans le commerce et dans l'industrie. Dans mes saisies que j'ai faites aux archives municipales de la ville, j'ai travaillé encore à l'époque où les archives municipales étaient portes de l'hôpital, donc c'est un cadre moins technique, moins moderne, mais beaucoup plus convivial et beaucoup plus chaleureux que... Je ne dis pas que les archives aujourd'hui ne sont pas chaleureuses, mais disons qu'il y avait une convivialité qu'on ne retrouve plus dans ces bâtiments modernes d'aujourd'hui. Donc lorsque j'ai fait mes relevés, il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert de nombreux petits marchands, commis de commerce, petits cadres juifs, donc originaires du Palatinat, du pays de Bade, mais également énormément de commerçants qui venaient de Berlin. Parmi eux, des marchands badois, dont le témoin, par exemple, j'ai trouvé plusieurs marchands badois, dont le témoin est un banquier établi à Strasbourg depuis peu, Gustav Oppenheim, un grand nom que je vais développer maintenant, puisque Isaac Adler et son ami et associé, Ferdinand Oppenheim, sont des courtiers en tannerie qui s'installent très très tôt à Strasbourg. Ils s'installent à Strasbourg dès l'été 1871. Ils s'installent, vous allez voir leur façon de faire, ils deviennent d'abord collaborateurs avec la grande tannerie qui est installée sur place, la tannerie Ehrenschmidt, qui emploie déjà 200 ouvriers. Donc ils commencent à être des collaborateurs très, très discrets, donc des grands tanneurs strasbourgeois. Les Ehrenschmidt, c'est des gens qui dominent la société strasbourgeoise. Les Ehrenschmidt, on les trouve dans la chambre de commerce, on les trouve à la municipalité, on les trouvera également dans d'autres organismes durant le Reichstag. Donc ils y travaillent pendant une dizaine d'années, et puis en 1882, une opportunité se présente à eux. Ils apprennent que du côté de Ingolstadt, une usine d'amidon vient de fermer et que cette usine est à vendre. Donc ils se mettent en rapport avec le conseil municipal. Le conseil municipal leur donne leur accord et ils achètent alors cette usine d'amidon d'un certain Auguste Schumann. Une usine d'amidon qui fabriquait également des cols. Ils installent alors leur tannerie. En 1895, ils emploient entre 250 et 300 ouvriers. Ce sont des gens très dynamiques, ce sont déjà des gens très modernes, ils ne se contentent pas de créer cette tannerie strasbourgeoise, mais ils ouvrent des filiales. Alors il y a une filiale qui est ouverte à Neumünster en Autriche, et une autre filiale qui est ouverte en Suisse, et une troisième filiale qui est ouverte au Luxembourg. Donc une véritable multinationale du cuivre. En 1918, c'est l'apogée de l'entreprise, ils occupent 2000 ouvriers et ils sont capables de traiter 1500 pots par jour. Ils emploient donc énormément de gens de tous les villages environnants, en particulier énormément de gens d'Ingolstadt qui font le trajet tous les jours, qui vont travailler à Ingolstadt. L'autre grand nom, l'autre grand consortium, c'est le consortium Netter-Jacobi. Alors là, la chronologie est la même. Jacob Netter et Salomon Jacobi sont originaires de Bulle, donc du pays de Bade. Donc ces quatre familles sont des familles qui représentent cette immigration de proximité. On vient de quelques dizaines, de quelques 20 kilomètres. Ils arrivent à Strasbourg également très tôt, en 1973. Ils font une filiale Wolf Netter. Pourquoi viennent-ils à Strasbourg? Tout simplement parce que, je vous parlais tout à l'heure des opportunités qu'il y avait en Alsace. la guerre de 70 s'est traduite pour la ville de Strasbourg par un siège qui a duré très longtemps, qui a duré presque 2 mois. C'était un siège très, très dur. Les Strasbourgeois ont énormément souffert. Et un siège qui s'est traduit par énormément de destruction. Vous vous rappelez peut-être qu'en 2010, il y a eu une grande exposition aux archives municipales, une annexe encore au musée historique, sur le siège de Strasbourg. Donc énormément de démolitions, d'usines, de maisons, de grands immeubles. Donc nécessité de reconstruire. Et pour reconstruire, il faut du métal. C'est le début de l'utilisation du métal comme charpente métallique, c'est le début également du béton armé. Donc ils vont sauter sur cette occasion. C'est par exemple la firme Netter et Jacobi qui va faire la charpente métallique de la grande synagogue consistoriale, hein, qui sera inaugurée en 1898, je crois. Hein. Donc c'est eux qui vont faire la charpente. Ils s'installent ensuite avec le Nixhofen en 87, où ils ont un grand atelier de construction mécanique. Ils deviennent ensuite une puissante firme métallurgique. Que Nixhofen est trop petit, la firme est trop à l'étroit dans ses bâtiments. Et alors en 1900, c'est le début de l'essor du port du Rhin, ils installent un grand laminoir de tôle au port du Rhin. Ça sera donc deviendra ensuite les aciéries de Königshofen et ça sera repris par un grand groupe international dans les années 60-70 par Trafford Steel Cain. Netter et Jacobi, c'est les ancêtres lointains, ça remonte donc en 1873, de Trafford Steel Cain. Ces deux grandes firmes sont frappées par leur modernité et par la rapidité avec laquelle ils créent de grands ensembles. Seulement, ces deux firmes sont l'exception. Il n'y aura pas de création identique durant la période. Notons quand même que ces créations se font tout à fait au début du Reichstag. L'autre grande création faite par un juif ou par des juifs, elle a été faite par des juifs alsaciens. C'est les grands moulins Baumann. Les Baumann, c'est une famille, Kirch, hein, c'est une famille alsacienne, hein, qui crée les moulins Ilkirch. Les Ilkirch Mühlenwerk, qui brûlent, je crois, au début du siècle. Alors on abandonne l'ancien site et on crée quelque chose de beaucoup plus important à partir de 1903 au port du Rhin. Alors, ce qui est frappant pour les deux firmes dont je vous ai parlé, Adler-Oppenheim et Netter-Jacobi, je vous signale que Jean Lathrop, un historien qui est également des amis, a consacré dans la revue d'Alsace de 2010 un très bel article sur la présence des Adler-Oppenheim à Strasbourg et sur l'usine des tanneries de l'Ingolstein. C'est Adler-Oppenheim et ses Netter et Jacobi ont tellement apprécié l'Alsace, ont tellement aimé l'Alsace, je ne vous l'apprends peut-être pas, vous le savez sans doute, qu'ils ont désiré reposer en Alsace et que lorsqu'en 1918, ils ont dû, là c'est une autre page de l'histoire d'Alsace, une page tragique, lorsqu'ils ont dû en 1918, certains vins quittaient l'Alsace chassés par les nouvelles autorités, ils ont demandé à reposer en terre d'Alsace. Et c'est ainsi que vous avez, au vieux cimetière de Cronenbourg, les tombes de Julius Oppenheimer, hein, 1874-1939, donc mort en 1939, le corps a été transféré, inhumé à Cronenbourg. Son épouse Marguerite Oppenheim, née Busch, est morte en 1935, et leur fils également, Franz Ferdinand Oppenheim, né en 14, a dû quitter en 1919 et son corps a été rapatrié en 1941. Pareil pour les descendants de Jacobi, Hugo Jacobi, décédé en 1954, Salomon Jacobi, décédé en 1921, Eugène, décédé en 1933, repose au cimetière de Cronenbourg. De même que Louise, née en 62, oui, encore en 62, Rastan, c'est très loin, le Rastan se termine en 18. Otto, mort à Strasbourg, lui, en 1937, et Pablo, mort en 1968, chevalier de la Légion d'honneur. Toutes ces personnalités-là reposent au cimetière de Cronenbourg. Ça vous montre le rattachement à la terre d'Assas. Donc ça c'est un premier ensemble de professions, donc des commerçants et des industriels. Un deuxième groupe extrêmement important et très bien représenté, ce sont les professions libérales. Les professions libérales, c'est une classe nouvelle qui se développe dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui connaît en Allemagne un essor vraiment remarquable. Les Allemands parlent du Neue Mittelstand, hein, du classe moyenne nouvelle. Et ils disent que ce sont Neue Mittelstand qui est à l'origine finalement du développement industriel, du décollage extrêmement rapide de l'Allemagne. Et c'est ce Mittelstand, c'est le dynamisme de ce Mittelstand qui explique que l'Allemagne va très très vite se hisser au premier rang de l'économie européenne. Alors parmi les professions libérales, j'ai repéré deux ingénieurs qui sont docteurs en chimie. J'ai repéré des médecins, par contre, aucun avocat. Ça serait assez étonnant, je n'ai pas trouvé d'avocat chez juge. Alors, quelques exemples.
C'est venu après.
C'est venu après, mais ce n'est pas à l'époque du rationnel. Alors, exemple de médecin, je vais essayer de varier les exemples. Exemple de médecin, j'en ai trouvé deux, donc j'ai relevé. C'est Édouard Oppenheim, originaire du Palatinat, qui est le neveu de Julius Oppenheim, le fondateur là, des Tannerie. Alors il s'installe à Strasbourg dans les années 80, il monte son cabinet rue du Marché au vin et il se spécialise en dermatologie et il soigne en particulier également les maladies vénériennes. Il a une très très belle clientèle, à tel point qu'en 18, il demande à rester. Alors son dossier passe devant une commission spéciale, qui est instituée à l'époque, c'est la commission spéciale pour étrangers. Dans un premier temps, on lui donne l'autorisation de rester. Il passe une deuxième fois devant la commission, là aussi l'autorisation de rester. Et puis finalement, le commissaire général, une espèce de super préfet qu'on a fait à l'époque, donne un avis défavorable, ne suit pas la commission, et Édouard Oppenheim est obligé de quitter en 1920. Il sera expulsé, pas obligé de quitter, il sera expulsé en 1920. Deuxième personnage, il est moins connu, il a une carrière moins brillante, c'est Gustav Altmann, originaire de Prusse, qui arrive à Strasbourg en 1895. Il est d'abord médecin militaire, puis médecin cantonal et médecin scolaire. Et il épouse, c'est assez intéressant, il épouse à Strasbourg une certaine Louise Kunz, qui est professeur de chant au conservatoire et soliste. Et Gustav a également l'oreille musicale. Il suit naturellement tous les concerts de son épouse, mais il se spécialise alors dans la critique musicale. Il sera pendant 15 ans le rédacteur de la rubrique musicale du Strasbourger Post. Le Strasbourger Post, c'est l'organe de la bourgeoisie immigrée allemande. Donc c'est lui qui tiendra pendant presque 20 ans la chronique musicale dans ce journal-là. Troisième exemple, le nom très connu, c'est Max Goldschmidt, originaire de Westphalie. Alors là, on a deux générations. Le papa, le père, tenait un magasin d'habillement ou un Platz Tibet. Alors, tout ce que dit ce magasin Goldschmidt, qui restait Goldschmidt jusque dans les années 60, est devenu ensuite Otan. Hein, encore oui. Vous savez peut-être, lorsque, bon, c'est un peu une anecdote, mais lorsque le général de Gaulle est venu à Strasbourg pour célébrer le 20e anniversaire de la libération, il a tenu le 23 novembre 1964 un très grand discours du balcon de l'Aubette. Il avait exigé, du moins les services avaient exigé, que le sigle OTAN disparaisse. On avait effectivement occulté le sigle OTAN, puisque l'année d'après, en 1965, de Gaulle annonçait que la France se retirait de l'OTAN. Donc il ne fallait pas se provoquer par ce sigle. Donc je reviens à ça. Goldschmidt, donc le papa, monte un magasin de vêtements. Le fils, qui naît à Strasbourg en 1884, fait des études de médecine à Strasbourg, ouvre un cabinet de médecine au 7 rue Quevert. Il fait souche à Strasbourg, comme beaucoup de juifs. Il épouse la fille d'un marchand juif, Léopold de Farr. Et en 1918, comme cette fille de Léopold était une Alsacienne, il a la possibilité de rester. Il reste donc à Strasbourg et en Alsace, c'est une disposition du traité de Versailles qui le permettait, puis alors il partage le sort de la population alsacienne au moment de la Deuxième Guerre mondiale. La ville est évacuée, puis alors lui aussi participe à l'évacuation. Il est évacué dans les départements du Sud-Ouest, puis j'ai essayé de trouver traces dans les archives. Et le dernier document que j'ai trouvé, c'est dans le fichier domiciliaire. Dans ce fichier, on peut suivre pour toutes les personnes l'ensemble des lieux d'habitation. Le fichier domiciliaire a été obligatoire. Le fait de déclarer son domicile au fichier domiciliaire a été obligatoire jusqu'en 1970. Et j'ai retrouvé la dernière trace donc du fils de Max Goldschmidt. Ce fichier en date du 27 février 1942, où il est écrit Aus der Evakuierung nicht zurückgekehrt. Donc il est resté dans le sud-ouest et là sans doute c'est celui dans le sud-ouest, imitant en cela énormément de Strasbourgeois qui ont agi parmi nous. Toujours dans les professions libérales, pour changer un petit peu, là je vous prends maintenant un architecte, Ludwig Lévy. Vous allez voir qu'il a fait de grandes réalisations que vous connaissez. Donc voilà quelqu'un qui est né à Landau, pas loin de l'Alsace, en 1852, qui fait ses études à la Technische Hochschule de Karlsruhe, qui travaille d'abord comme architecte à Francfort et à Ludwigshafen, qui enseigne ensuite l'architecture à partir de 1888 à l'école d'architecture de Karlsruhe, qui est la très grande école d'architecture. La plupart des grands architectes qui sont à l'origine du Strasbourg impérial ont fait un séjour là-bas, ils ont au moins passé 2 ans ou 3 ans. Il y en avait deux grandes, il y avait Karlsruhe et il y avait Munich. En 1902, il devient conseiller pour l'architecture du ministre Bavois. Et il arrive à Strasbourg, je n'ai pas trouvé exactement la date à l'époque où il arrive, mais il arrive à peu près à la fin du 19e, entre 1890 et 1891. Il réalise alors de fort belles choses. Entre 91 et 92, c'est lui qui édifie la Villa Lévy, superbe villa au 20 allée de la Roverso, de style renaissance française, le style historisant. N'est pas seulement un style qui copie les styles allemands, mais qui copie également, c'est la nouveauté du début du XXe siècle, la Renaissance française. C'est lui, Jean Lattrop l'a montré dans son livre sur la grande synagogue, c'est lui qui fait les plans et qui édifie donc la grande synagogue de la place des Halles, qui est consacrée solennellement le 8 septembre 1898, en présence, je crois, du pape s'inspire de l'art rhénan, énormément de similitudes avec la cathédrale de Vannes, et il participera également au concours lorsque on termine la place impériale, donc après avoir construit le palais impérial, la bibliothèque universitaire et puis le bâtiment servant aux lames de Saint-Chou, l'ancien conservatoire, on ferme la place du côté nord par deux bâtiments. Et alors on organise un concours d'architecture. Ludwig Lévy se présente à ce concours, gagne le concours, et c'est lui alors qui édifie le bâtiment ouest, l'actuelle trésorerie, qui est construite en 1898. Il participe également au projet pour le dernier bâtiment qui sera construit en 1899-1902, et des services de la préfecture. Malheureusement, il est très malade, il décède, il meurt à Strasbourg, enfin, il meurt à Strasbourg en 1907. Des médecins, des architectes. Mais là où les juifs allemands se sont sans doute les mieux illustrés, c'est dans l'université impériale. C'est là où le projet est très, très grand.